On verra, on va voir comment ça se goupille, comment Marc va organiser son affaire. Alors, déjà, on va voir que c'est... on peut prendre peut-être au chapitre 8 de Marc, hein, vous avez là-dedans. 8:27, on va être au milieu de l'évangile. Donc il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer. Et on arrive en Marc 8:27, on est au milieu de l'évangile. C'est la page 7, là. Et Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples. Qui suis-je au dire des hommes? Donc là, la grande question, c'est en effet, qui est Jésus-Christ? Qui est-il? Et voilà, il a vécu avec les disciples, ils vivent avec lui, et il leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Vous qui... Et qui les hommes, disent-ils? Les hommes qui sont guéris, les hommes qui mangent du pain, les hommes qui retrouvent la vue, les hommes, que disent-ils? Et alors, ils lui dirent, Jean le Baptiste. C'est Jean le Baptiste qui est revenu. D'autres, tu es Élie le prophète. Pour d'autres, l'un des prophètes. Et puis, il leur demandait, et vous, qui dites-vous que je suis? Et prenant la parole, Pierre lui répond, tu es le Christ. Tu es le Messie. Voilà, au milieu de l'évangile, donc déjà tout un paquet de temps là, ils reconnaissent que Jésus est quelqu'un qui a reçu l'Esprit Saint. Il est choisi par Dieu. Il a reçu l'onction, c'est ça que ça veut dire le Messie. Il a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Il est plein d'Esprit Saint. C'est un prophète particulier c'est un homme particulier qui a été choisi par Dieu. Voilà, ça c'est certain. Voilà ce que Pierre dit. Tu es le Christ. Tu es Jésus-Christ. Voilà. C'est déjà pas mal de révélations, mais on n'en est pas encore à « Tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu ». Ça, c'est encore autre chose, ça. Et là, et on va voir bien pourquoi, justement, Pierre est la preuve qu'il n'a pas encore fait ce pas de comprendre et de voir qui est vraiment Jésus. Il lui dit, Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, tu es le Christ ». Alors, devant cette première éclairage de confiance et de vision qu'ont les disciples, Jésus, juste après, hein, au verset 31, en 8:31, alors Jésus commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort, et que 3 jours après, il ressuscite. Et ouvertement, il disait la parole. Voilà. Donc là aussi, pour Marc, dire ouvertement la parole, c'est pas de faire des enseignements. Dire ouvertement la parole, c'est de clarifier le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, de ce que ça a à faire dans le mystère de Dieu. Comment se fait-il que Dieu vienne et se fasse homme et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite? C'est ça, pour Marc, de dire la parole ouvertement. Et ouvertement, il disait la parole. Pierre, le tyran à part, se mit à le réprimander. Pierre lui dit, mais non, c'est pas possible. Non. Pas la souffrance. Non, c'est pas possible. C'est pas possible que tu viennes pour ça. Tu es venu, tu viens pour soigner les gens, pour guérir les gens, pour apporter la paix. C'est pas possible que ce soit le chemin de Dieu, ça. Pierre, le réprimandant, le tyran à part, se mit à le réprimander. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, réprimanda Pierre et il lui dit, « Retire-toi derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Donc là, on est vraiment à un moment clé pour Marc, au milieu de l'évangile. Et il dit, voilà, les disciples commencent à reconnaître qui est Jésus. Et Pierre, au nom de reconnaît qu'il est le Messie, celui qui est loin de l'Esprit Saint, qui est plein de l'Esprit Saint, qui enseigne, qui guérit, qui montre le chemin. Là, c'est déjà quelque chose. À ce moment-là, devant cette lumière, Jésus peut lui parler, leur en dire un peu plus. Et là, il découvre qu'en effet, Pierre est encore dans une vision bien humaine des affaires. Et il lui dit à ce moment-là cette parole, « Derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et à partir de ce moment-là, on va voir que Jésus, et c'est une nouvelle couleur que vous avez trouvée dans ce texte-là et qui n'était pas dans l'évangile de Paul, c'est le bleu. Et ça va être les annonces de la mort et de la résurrection. Donc Marc, qui est en train de raconter le vécu de Jésus en Galilée et en Judée, il est bien obligé, il sent la nécessité absolue de mettre en permanence ce mystère de la mort et de la résurrection. Et ce sont des choses qu'en général, les gens qui lisent l'Évangile essayent de mettre de côté. Donc on a ce premier virage, ce premier tournant, et une première découverte là de Jésus, vraiment le oint de Dieu, rempli d'Esprit Saint, il est le Christ. Mais c'est pas encore suffisant. Alors on reviendra sur les annonces de la croix, puisque essayer de savoir à quel moment est-ce qu'on peut reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que vous vous souvenez de quel moment on reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu? Eh bien, c'est un petit peu avant, mais c'est... tu as raison, c'est la résurrection. Quand il est sur la croix. Voilà. Quand il est sur la croix, parce que c'est au moment de sa mort, et tu as raison, on ne peut reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu que par une expérience, une visitation de la résurrection. Et vous pouvez le prendre, c'est dans Matthieu 15, 37, et là j'ai gardé cette couleur orange, là, qui est, voyez-vous, le orange, vous l'avez au début, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc 15, 37, oui. Excusez-moi. Ah ouais, je suis désolé. Donc vous avez ce chapitre 8:27. On a une première révélation. Donc on commence puisque c'est bien l'évangile de Jésus-Christ, le Messie. Et puis, alors on a l'aventure de... On peut le prendre à partir du chapitre 15, verset 14, 24 par exemple. 15:24. Il crucifie Jésus. Et il partage ses vêtements et les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Il était 9 heures quand ils le crucifièrent. L'inscription portant le motif de sa condamnation était ainsi libellée, le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et fut accomplie l'écriture qui dit « Il fut compté au nombre des malfaiteurs. » Alors là, cette phrase-là nous permet de faire le lien avec tout ce que Paul parle sur qu'on ne peut pas être justifié par la loi parce que la loi a crucifié le Christ. Elle l'a fait malfaiteur. Donc on a un lien avec tout ce que Paul veut expliciter sur qu'on ne peut pas s'en sortir par nos propres moyens, que s'il n'y a que par la foi en Jésus que le salut s'accomplit. Et fut accomplie l'Écriture qui dit « Il fut compté au nombre des malfaiteurs ». Les passants l'insultaient, hochant la tête et disant « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » De même, les grands prêtres avec les scribes se moquaient entre eux. « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. » Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix pour que nous croyions, que nous voyons et que nous croyons. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient. Voilà, et donc on a ces passages-là. Or, Jésus, laissant échapper un grand cri, rendit l'esprit. Alors dans le rendit l'esprit, hein, dans l'état, la vision de... Pardon ? Dans la vision des évangélistes, et, sauf Luc, rendre l'esprit, c'est d'une certaine manière la Pentecôte. C'est que Jésus, il rend l'esprit, il expire, il donne l'Esprit Saint. Voilà. Et le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. Donc ça, c'était la grande affaire. Si Marc met ça, c'est dit, mais c'est qu'en fait, dans le temple de Jérusalem, le lieu où était supposé habiter Dieu, où une fois par an, le grand prêtre rentrait derrière le voile pour pouvoir avoir une conversation avec Dieu, eh bien, ce voile est déchiré parce que Dieu n'est pas là. Où est-ce que Dieu est? Et le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, voyant qu'il avait donné l'esprit, en criant, il dit, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Et alors, c'est d'autant plus bouleversant, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas un disciple, c'est un païen, c'est la grande aventure des années 70, c'est qu'en effet, ce mystère n'est pas que pour les juifs, il est pour tout homme. Eh bien, celui-là, rien qu'à regarder ce qui se passe, celui-là, il a entendu parler de qui était ce Jésus, qui n'a fait que du bien, et puis qui... Bon, il a regardé ça de loin, le centurion. La manière dont il a été devant tout ça, hein, jamais disant une parole à l'encontre de ceux qui étaient ses bourreaux. Et là, devant cette expiration, ce don de l'esprit, cet homme était le Fils de Dieu. Alors, en tout cas, c'est Marc. Marc nous affirme ça. Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, et parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé qui le suivait. Elle le servait quand il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Pas de disciples, des femmes. Des femmes qui sont là, en tout cas 3 femmes qui sont là. Voilà, et on peut comprendre, hein, on peut comprendre ça parce qu'elles sont proches de Marie. Et on imagine bien que la proximité de Marie va donner aux femmes un avantage extraordinaire pour rester proche de lui au moment où tout s'effondre d'une certaine manière et d'être les témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors on va lire la première conclusion, la conclusion courte. Conclusion courte. Donc vous l'avez, Marc 16, 1. Quand le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie Madeleine, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée, or elle était très grande. Entrées dans le tombeau, où elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Voyez un peu comment se terminait l'évangile de Marc, s'est terminé l'évangile de Marc pendant 70 ans. On sait très bien que la tradition chrétienne faisait état de beaucoup d'apparitions de Jésus ressuscité, puisqu'on en a des preuves dans Paul. Donc Marc a les textes de Paul, donc on sait bien que la tradition chrétienne faisait l'expérience et racontait, voilà, 1 Corinthiens 15, verset 3. Voilà, enfin, hein, donc, je vous redis ce que Paul disait dans l'Épître aux Corinthiens. Donc, Épître aux Corinthiens, écrite vers 52. Donc, presque 15 ans avant cet évangile de Marc. Donc, c'est des textes bien connus. Donc, Marc connaît bien tout ça. Et cependant, il va faire cette conclusion courte là, cette conclusion, mais on va voir pourquoi. Paul disait, « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, à savoir, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Après, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. » Donc, on a bien que c'est pas parce que Marc ne le sait pas. Il le sait. Mais pourquoi est-ce qu'il nous laisse dans cette affaire-là? Eh bien, il s'avère, je crois que la grande message de l'évangile de Marc, c'est de dire, voilà, vous connaissez, vous êtes chrétien, vous avez entendu parler de Jésus, vous connaissez Jésus, vous vivez avec lui. Et vous savez le message qu'il vous a donné, allez annoncer la bonne nouvelle, partagez ce que vous avez reçu de libération, de vie. Allez annoncer, hein. Il vous précède en Galilée, là où vous allez, il y va avant vous. C'est ce que le jeune homme qui est là, qui est le témoin de la résurrection, leur dit, il vous précède là où vous allez, sur vos lieux de travail, partout où vous allez, il vous précède. C'est là que vous le verrez. Allez maintenant et allez dire que je suis vivant. Allez dire que je suis ressuscité. Et la conclusion se fait, elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et simplement, je crois que Marc remet le mystère de la responsabilité aux chrétiens en leur disant, mais Jésus s'est livré à vous, s'est donné à vous. Y aura-t-il encore, est-ce que la foi existera encore? C'est dans vos mains. Et l'expérience, c'est que si nous pouvons lire l'évangile de Marc, c'est que nous savons que Marie-Madeleine a parlé. Vous voyez, c'est ça aussi le mystère. Et c'est là aussi, c'est que Marc par là, il dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Et on va relire l'évangile pour revoir qu'est-ce qui se passe et comment on peut vivre de ce mystère pour sortir du manque de courage d'annoncer l'évangile. Et donc, elles étaient toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent à personne, elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Alors, on a quelque chose aussi, il y a un petit passage, j'ai envie, là, j'y pense tout de suite, alors, un truc un peu rigolo. Il y a un passage, vous pouvez prendre dans Marc, au chapitre 14, verset 51. Marc 14, 51, il y a un petit passage que Marc est le seul à écrire. Les autres évangiles ne vont pas reprendre ce texte, ce passage-là. Et vous avez, peut-être ça vous a surpris aussi de voir cette affaire-là. Hein. Donc on est dans l'aventure de toute cette zone. Quasiment à partir du chapitre 8 de Marc, vient toute cette affaire de la tension de plus en plus grande que Jésus apporte dans la relation avec les scribes, les grands prêtres, les pharisiens. La tension monte, qui fait que ça va l'emmener à la croix. Et chapitre 14, verset 42, par exemple. Hein. « Levez-vous, voilà. Allons, voici qu'est arrivé celui qui me livre. Celui qui le livrait avait convenu avec eux d'un signal. » « Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Sitôt arrivé, il s'avance vers lui et lui dit « Rabbi !» Et lui donna un baiser. Et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme, alors c'est le passage là, tout surprenant, un jeune homme le suivait, n'ayant qu'un drap sur le corps. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu.